Je crois que aujourd'hui, on ne manque pas d'idéologie. On dirait qu'on est saturé d'idéologie. Mais on manque d'espérance, c'est-à-dire de ce sens du possible.
Matryoshka. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast des Matrices. Les Matrices, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une collection Matryoshka exclusivement féminine qui met en lumière les femmes qui font la société. En gros, vous me direz toutes les femmes. Mais on va revenir plus en détail. On le fait pas par militantisme, féminisme, simplement dans un souci de régulation. Faire que les 52% de la population soient visibles à leur mesure. Nous faisons l'écho de ce que chacune crée à son échelle pour s'impliquer dans la société et apporter sa pierre à l'édifice. Que ce soit des femmes philosophes, entrepreneuses, militantes, artistes ou engagées, il y en a pour tous nos goûts, pour tous mes goûts. Alors aujourd'hui, je voudrais accueillir la philosophe Corinne Pelluchon, qui est auteure du livre « L'espérance » ou « La traversée de l'impossible » publié chez Rivage, un très joli livre. Le défi de Corinne Pelluchon, c'est comment ouvrir un horizon d'espérance à tous. C'est très utile aujourd'hui, alors qu'on voit que on tombe facilement dans une forme de déclinisme. Comment faire face à une époque où nous sommes confrontés à la multiplication des crises ? Alors pour bien comprendre tous ces enjeux, eh bien je vous propose qu'on accueille tout de suite ensemble Corinne Pelluchon. Bonjour. On va mettre au clair ce que ça signifie pour commencer ce terme, ce concept d'espérance, ou plutôt ce que ça ne signifie pas.
L'espérance n'est pas un trait psychologique. C'est pourquoi je la distingue de l'espoir, qui est le désir de voir ses vœux particuliers se réaliser dans un délai assez court, donc qui ne concerne que soi, qui peut parfois être une illusion. L'espérance a une dimension plus universelle et elle n'est pas non plus l'optimisme, lequel est parfois le masque du déni.
Et donc, Corinne Pelluchon, j'entends bien ce que vous dites, l'espérance, ce n'est pas... Mais qu'est-ce que c'est exactement ?
L'espérance a deux traits particuliers. Premièrement, c'est une attente, mais qui concerne l'histoire ou la collectivité. Et c'est plus précisément la faculté à voir dans le chaos du présent des signes avant-coureurs de quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui peut dessiner un horizon d'espérance, qui est comme une imminence. Et cette capacité à déchiffrer en dépit des obstacles, quelque chose qui fait croire en l'avenir, eh bien suppose paradoxalement la traversée du négatif, l'expérience de la souffrance qui permet justement, et c'est paradoxal, d'en finir avec ses illusions, d'ouvrir les yeux vraiment sur la gravité d'une situation et de reconnaître que les solutions que l'on avait imaginées ne marchent pas.
Et est-ce que l'expérience du néant, des illusions, eh bien c'est ça qui fait germer l'espérance ? Finalement, est-ce que l'espérance naît de quelque chose ? Est-ce que ça naît à un moment exactement ?
Alors l'espérance, elle naît quand elle veut. Mais c'est vrai que pour naître, eh bien il faut en avoir fini avec... ses rêves de grandeur, son obsession de maîtrise des choses. Donc l'espérance naît de l'inespéré. Voilà, ça c'est un paradoxe. Hein. Mais c'est une énergie, c'est pas un discours. Et c'est pourquoi on peut pas la créer de toutes pièces. Et elle naît d'un abandon, pour ainsi dire. Donc ça c'est vraiment... c'est vraiment important. Alors que l'espoir, c'est quand même... lié à une projection. Il n'y a pas de projection, il n'y a pas quelque chose de déterminé non plus. Ce n'est pas comme les reconstructions a priori du sens de l'histoire à partir d'un fil directeur, comme dans les idéologies, qui parfois sont violentes et dogmatiques et qui veulent à tout prix faire advenir ce bien par tous les moyens. L'espérance, c'est une énergie. C'est un horizon qui s'ouvre, de nouveaux possibles, qui ne sont pas arbitraires. Il y a des signes avant-coureurs de quelque chose, mais on ne peut pas totalement le prévoir. Et en tout cas, cette attente, elle a une certaine patience. Elle suppose que on se dispose à apprécier ce qu'on n'attendait pas, mais qui dessine quelque chose de positif, en tout cas qui pourrait changer la vie.
Si on retrace un petit peu votre déclic à vous, Corinne Peluchon, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur l'espérance? Pourquoi est-ce que vous jugez important de traiter ce thème aujourd'hui?
Je crois qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'idéologie. On dirait qu'on est saturé d'idéologie. Mais on manque d'espérance, c'est-à-dire de ce sens du possible. Il y a beaucoup de personnes, individuellement et collectivement, qui ne voient pas le bout du tunnel, qui ont l'impression que leur vie n'a pas, sera la sempiternelle répétition des choses. Et l'avenir qui semble bouché, puis nous sommes confrontés aujourd'hui à la possibilité de l'effondrement, pour des raisons, en raison de la crise climatique. Mais la crise climatique, c'est même une manière un petit peu insuffisante de nommer les choses. Nous sommes confrontés à la possibilité de l'effondrement, qui souligne pas seulement la menace, les menaces pour notre survie et celle des autres espèces, mais c'est aussi, cela pointe la précarité de notre civilisation. Ça veut dire que nous devons remettre en question un certain nombre d'idées avec lesquelles nous avons été élevés. Donc la fierté d'appartenir à une civilisation, les certitudes que nous avions, tout ça s'effondre et ça produit un remaniement psychique important de doute, de perte de repères. Donc que les individus le sentent très profondément, de manière très aiguë, comme ceux qui souffrent d'éco-anxiété, ou qu'ils feignent de ne pas trop le savoir ou de ne pas trop s'en rendre compte, n'empêche que ce climat de lassitude s'est installé partout, dans la vie, dans la ville, dans les urnes, etc. Et moi, je souligne les dangers de cette situation, qui au niveau collectif fait qu'il y a une place vide qui peut être comblée de manière perverse par les récits simplificateurs faisant croire qu'il y a un horizon commun, mais à partir de l'opposition ami-ennemi, nationalisme, populisme aussi. Et puis au niveau individuel, la perte de ses repères fait qu'il y a des crispations identitaires qui rassurent pour un moment, toujours pareil en désignant les coupables, ou une sorte de lassitude qui, dans certains cas, pour les personnes qui individuellement en perdent même l'estime d'elles-mêmes parce qu'elles ne voient pas l'avenir, perdent confiance en elles et en l'avenir, bien ça produit une désespérance, voire dans les cas extrêmes, qui sont ceux par lesquels je commence, un désespoir qui a une dialectique destructrice parce qu'il croit. Le désespoir, il ne reste pas le même, il croit en intensité et cette intensité fait que la souffrance se renverse parfois en ressentiment, en dégoût de soi et désamour de soi parce qu'on a un peu honte de ne pas être bien, de voir son intelligence humiliée par la lassitude et puis parfois en haine de la vie. Cette dialectique destructrice, elle existe. Et il fallait la nommer. Et moi, j'ai distingué quand même, malgré cela, le désespoir, dont je viens de parler ici, de l'éco-anxiété, qui peut avoir des manifestations négatives, qui est toujours accompagnée d'émotions négatives, l'accablement, le sentiment d'impuissance, l'indignation, la colère, parce que malgré la gravité de la situation, il n'y a pas beaucoup de réponses au niveau individuel et collectif aux problèmes climatiques et aux problèmes liés à cela. Mais je montre que l'origine de l'éco-anxiété, elle est noble. C'est l'amour du monde et elle veut que l'humanité soit enfin à la hauteur. Et ça, il s'agit de cette noble origine, de la faire sentir pour que les personnes souffrant d'éco-anxiété, qui sont des sentinelles, parce que justement, elles ne veulent pas des fausses solutions, elles ne se satisfont pas de ces fausses solutions et elles ne veulent pas du déni. Et donc, mais évidemment, elles sont menacées aussi de convertir, pour ainsi dire, leurs émotions négatives, notamment la colère, l'indignation, en tyrannie du bien.
Et d'après vous, alors, à qui est-ce que ça cause finalement ce sujet-là sur l'espérance?
Je m'adressais vraiment à celles et ceux auxquels on s'adresse très peu en philosophie. Parler du désespoir, il y en a très peu qui en parlent. Et puis c'est vrai que pour pouvoir en parler, il faut peut-être un peu l'avoir connu. Et du coup, comme moi, j'ai fait l'expérience de la dépression entre ma 20e et ma 30e année, j'en ai un souvenir encore important, bien j'ai voulu parler un petit peu de cela, même si ce n'est pas une confession, hein, mais et ensuite non pas proposer des solutions parce que je ne les ai pas, mais dire que paradoxalement notre situation actuelle, qui est très difficile, qui est même une impasse, est peut-être l'occasion de faire un inventaire au niveau individuel et collectif pour voir ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut changer et ce qu'il faut continuer de chérir et comment. Et donc, voilà, sans aller, sans penser que je vais apporter moi l'espérance, puisque personne ne peut l'apporter, hein, elle vient quand elle vient, c'est comme l'amour, le désir, hein, mais en essayant quand même de dire que quand on perd tout, d'une certaine manière, si on renonce même à la volonté de maîtriser et qu'on renonce même à tout défi consistant à désigner des boucs émissaires, à en vouloir aux autres et à la vie, si on abandonne tout, paradoxalement, c'est le moment où on peut accueillir l'espérance, en tout cas s'ouvrir à l'espérance qui est liée aussi au sentiment de gratitude envers la vie. Parce que justement, quand on abandonne tout, reste ce fil ténu à la vie, à ce qui nous relie aux autres vivants. Et donc, du coup, justement, au moment où on abandonne tout et toutes ces illusions, toute volonté de maîtrise, le moi se vide et c'est aussi la possibilité d'une certaine intensité, paradoxalement, d'une capacité à voir avec plus de discernement ce qui est précieux et à le transmettre. Et moi, je voulais, précisément parce que je suis très sensible au climat actuel inflammable et à la souffrance actuelle, et puis bon, je l'ai vécu, et la dépression, c'est pas quelque chose dont on peut se dire guéri tout, une fois pour toutes, hein. L'ombre peut revenir, etc. Mais du coup, je pense que j'avais à transmettre cela, puisque en plus, bon, j'ai 55 ans, j'ai le recul pour pouvoir non pas parler de moi, mais analyser non pas ce qui s'est passé, parce qu'on ne comprend jamais rien, mais avoir trouvé la quintessence, trouver un petit peu les mots pour toucher celles et ceux qui sont finalement nombreux à vivre chacun dans leur coin cette lassitude profonde, cette extinction du désir de vivre qui peut prendre des manifestations plus ou moins graves, mais que l'on sent plus ou moins.
Alors, on entend bien, on remarque bien dans la société aujourd'hui, il y a cette lassitude d'un côté, cette extinction du désir de vivre qui se manifeste chez certaines personnes. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une forme d'éveil des consciences, d'humilité, de lâcher prise qui est en train d'émerger quant à ce rapport de domination sur les autres êtres vivants? Il y a quelque chose qui se passe là, non?
Alors ça, moi j'avais écrit des livres précédents où je parlais de l'âge du vivant qui est lié à une sorte de réconciliation avec sa vulnérabilité et sa finitude, ce qui n'est pas rien et qui est un peu la clé pour justement faire de la place aux autres, humains et non humains, au sein de son existence, en mangeant, en habitant quelque part, etc., dans sa vie quotidienne et dans son cœur, bien sûr. Donc il y avait cet âge du vivant à comme fer de lance aujourd'hui, je crois, comme manifestation ou signe avant-coureur principaux, l'intérêt d'une partie de la population pour la cause animale, l'écologie, je pense, et même le féminisme. Hein, il y a quand même des points communs qui sont une autre manière de nous penser. Donc, de livre en livre, depuis plusieurs années, j'accompagne cela en essayant de lui donner une cohérence, etc. Et là, ici, effectivement, je crois que les difficultés que nous avons individuellement et collectivement, ce remaniement psychique et moral, intellectuel, qui est nécessaire et qui consiste à remettre en question le dualisme nature-culture, la séparation radicale entre les humains et les non-humains, l'équation progrès, croissance illimitée, aussi le fait que vivre bien, c'est posséder beaucoup de biens, avoir des biens que les autres ne peuvent pas avoir, cette compétition et concurrence effrénée, qui est pourtant au cœur de l'éducation encore, et de l'université, etc. On remet évidemment en question tout cela parce qu'on voit que c'est quand même une des causes d'une manière de vivre qui a des contre-productivités majeures, environnementales, mais aussi sur le plan social et de la convivialité, et aussi au niveau de notre psychisme, hein, au niveau du sens qu'on accorde à sa vie, de l'estime de soi. Bon. Et donc du coup, et effectivement, ce remaniement moral et psychique, il ne se fait pas facilement, parce qu'il y a beaucoup de doutes, les personnes sont déplacées, doivent renoncer aussi à certaines choses auxquelles ils avaient associé leur identité, leur construction d'eux-mêmes. Donc du coup, c'est ça qui est difficile. Et en même temps, ce que je montre, c'est que si on le fait de manière patiente et sans idéologie, eh bien, on découvre autre chose, et que j'ai décrit dans plusieurs livres. Mais là, je me penche sur aussi la dimension presque affective qui est au cœur de ce remaniement intellectuel, moral, psychique, etc., qui se passe au niveau individuel et collectif. Et évidemment, les phénomènes sociaux ne sont pas à penser de la même manière que les phénomènes individuels, mais quand même, il y a des liens.
Mais alors, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qui est assez intéressant, sur ce remaniement psychique, cette remise en question. Ce que vous expliquez en réalité dans votre essai, c'est qu'il y a une petite dimension chrétienne. Expliquez-nous ça.
C'est vrai que l'espérance aussi est une vertu théologale. Hein. C'est une vertu théologale, c'est-à-dire cardinale dans la chrétienté, à côté de la foi et de la charité. Et Charles Péguy, va comparer l'espérance à une petite fille qui traîne ses deux grandes sœurs, la foi comparée à une épouse loyale et la charité à une mère. Et ce qui montre bien, si elle est une petite fille, à laquelle en général personne ne fait attention, c'est que l'espérance n'est pas spectaculaire, mais qu'elle a une efficace, pour ainsi dire. Elle, c'est vrai que la foi sans l'espérance, c'est pas grand chose, que la charité sans l'espérance, c'est toujours pareil, l'espérance est liée à une énergie, hein. Mais elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas héroïque, on n'a pas l'espérance en essayant de combattre. Mais c'est vrai, au contraire, en abandonnant sa superbe. Alors, l'humilité, c'est un mot qui brûle. Hein. L'humilité, c'est difficile. L'humilité, c'est une vertu chrétienne qui est difficile. Bernard de Clairvaux la compare à un breuvage amer, parce que c'est la conscience de sa faillibilité, de ses limites, de son opacité, et c'est aussi liée à la prise de conscience de son statut d'être engendré, donc vulnérable, dépendant des autres, et même à son statut de créature, hein, chez les chrétiens. Donc du coup, c'est vrai, en tout cas, l'humilité, en allemand, Demut, même racine que courage, Mut, donc c'est déjà pas, c'est rien, c'est un certain courage consistant à lâcher la toute-puissance, laquelle peut-être vient d'une insécurité intérieure, de peur, hein. Mais donc c'est ce courage-là, mais c'est quand même difficile. Mais c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir d'espérance s'il n'y a pas d'acceptation du négatif et de traverser de la négative. Ce que je veux dire quand je parle de traverser de l'impossible, c'est que quand on souffre d'éco-anxiété, de dépression grave ou moins grave, mais une dépression c'est toujours grave, c'est un effondrement du psychisme, par définition on n'en voit pas le bout. C'est un impossible. Hein. C'est un sentiment d'étouffement, d'accablement, d'enfermement, et je joue sur le mot quand je parle de dépression, c'est l'enfer qui me ment, parce qu'on voit tout en noir, on ne peut même plus entendre les choses positives, ni voir ce qu'il y a malgré tout, en dépit du chaos, de positif.
Et donc si je suis un petit peu ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, Corinne Peluchon, si la dépression suppose la traversée de l'impossible, est-ce qu'on peut dire qu'elle permet également de voir, de ressentir le monde peut-être un peu différemment? Est-ce que ça éveille justement la conscience?
Alors la dépression n'éveille pas forcément. Bien souvent, elle coule, la personne. Souffrir ne suffit pas à rendre sage. Il ne suffit pas à rendre sage, malheureusement. C'est parfois même une double peine. Une souffrance et puis un enfermement, hein, qui convainc que rien ne va, etc. Donc, mais Ce qui est certain, c'est que l'acceptation de ces émotions négatives, dans le cas de l'éco-anxiété, la prise de conscience de la gravité de la situation et des souffrances qu'on impose aux autres vivants, dans le cas de la souffrance pour la souffrance des bêtes, le fait de le prendre sur soi, en comprenant aussi que ceux qui font souffrir les bêtes ne sont pas des bourreaux, mais qu'on prend aussi sur soi ce qu'ils font. On accepte que c'est aussi notre modèle de développement, hein, qui, en tout cas depuis le néolithique, fait que les animaux sont là comme des moyens au service de nos fins. Et avec l'industrialisation de l'élevage et nos modes de vie, c'est évidemment pire. C'est l'enfer sur Terre pour eux. Donc accepter aussi de prendre ce risque de souffrir pour les autres vivants, sans être dans le déni, dans les stratégies psychologiques de défense, de rationalisation, de minimisation du mal, de clivage entre sa raison et sa sensibilité. Accepter de souffrir, accepter d'être une sentinelle aussi, qui sent un peu ce qui ne va pas, qui ressent les choses. Bon, ben c'est un type de courage, et c'est ça effectivement, plus que la dépression, qui est quand même le moment où tout est noir. Hein. Mais c'est cette anxiété-là, on va dire, cette inquiétude-là, cette manière d'enlever ses armures ou son armure, qui permet, c'est vrai, de ressentir au plus profond de soi ce qui nous lie aux autres vivants.
Si on revient un instant, Corinne Pelluchon, sur un précédent ouvrage que vous avez écrit qui s'appelait « L'éthique de la considération » qui est paru aux éditions du Seuil, il y a un concept qui est intéressant, celui de la transdescendance que vous traitez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est, ce sentiment de lien profond avec les autres êtres vivants que vous analysez ?
Le concept de transdescendance, qui ne vient pas de moi, mais de Jean Val et puis de Lévinas, mais que j'ai transformé dans mes livres précédents, c'est l'approfondissement de la connaissance de soi comme être charnel, engendré, vulnérable, qui fait que, au lieu d'avoir un savoir abstrait de son appartenance à un monde plus vieux, plus vaste que soi, composé du patrimoine naturel, culturel et des autres vivants, on le sent. Et que cet élargissement de la conscience, où on se sent non pas comme un empire dans un empire, mais comme relié aux autres, humains et non humains, eh bien, change profondément le régime de son affectivité, ses aspirations, sa manière d'être là. Et voilà, cette expérience, incarnée, incorporée de son appartenance à un monde plus vieux, plus vaste que soi, qui survivra à sa mort individuelle et qui donne le désir, qui intensifie la conscience de sa finitude et qui en même temps donne le désir de transmettre un monde habitable. Et donc c'est transdescendance, parce que c'est un approfondissement de soi, une sorte de... Et en même temps, il y a le mot descendance parce que c'est un rapport à l'incommensurable. Le monde commun qui m'accueille à ma naissance et survivra, je l'espère, à ma mort individuelle, eh bien il est plus vieux, il est plus vaste que moi, et il est composé de toutes les techniques, de tous les patrimoines, les institutions, les autres vivants, et il me déborde, mais il est comme une transcendance dans l'immanence, puisque quand je vois là les outils qu'on utilise, que je pense que je suis né, et donc il y a une liaison ombilicale des vivants, une lignée de vivants derrière moi, pour ainsi dire, qui déborde ma vie en amont, eh bien, tout ça, c'est un rapport à ce qui me dépasse. Et voilà. Et puis j'aimais bien dans le mot transdescendance l'idée d'une descendance. Voilà. Et du coup, moi, c'est un peu ça que je mets au cœur de cette révolution anthropologique. Et c'est vrai que l'espérance, c'est quand on sent ça et qu'on sent que qu'on a envie, en tout cas, de témoigner de cela et d'en témoigner ici et maintenant.
Alors vous savez, Corinne Pelluchon, on appelle cette collection des matrioshkas les matrices, hein, parce qu'on est matrice, on fait sa part dans le monde. Vous, si je vous pose la question tout simplement, Corinne Pelluchon, de quoi êtes-vous matrice? Qu'est-ce que vous me répondez?
Je porte cet amour de la vie, précisément parce que, je crois, j'en ai senti la fragilité, et de la vie et de l'amour de la vie, en raison d'expériences... d'extinction de ce désir de vivre que j'ai pu faire. Mais moi, je porte cet amour de la vie et du vivant dans tout mon travail, qui est un travail de la reconstruction. Alors, reconstruction, ça veut dire qu'on est conscient de ce qui a été détruit, ce qui peut se détruire, cette fragilité des institutions, du vivant. Donc moi, c'est vrai que c'est même ce qui me pousse à écrire, sinon j'écrirais pas. Donc, voilà, je pense que toute ma vie tourne autour de cela.
Alors là, je vais vous lancer une matrioshka, une poupée russe. Vous savez que c'est le symbole de mon média, de cette chaîne, de le sujet de la transmission. Je vous l'envoie là dans les mains. Voilà, qu'est-ce que vous voyez émerger quand vous ouvrez cette poupée russe ?
Eh bien, dedans, il y a un fil ténu, invisible, qui relie les vivants entre eux, comme cette petite énergie, et comme cette petite fille dont Peggy parle et qui traîne les autres, cette grande sœur, la foi et la charité.
Un immense merci Corinne Pelluchon pour tous vos éclairages et cette pensée très constructive à partager, à transmettre. Je rappelle le titre de votre ouvrage « L'espérance ou la traversée de l'impossible » paru à la bibliothèque Rivage. Je vous conseille vivement la lecture de cet ouvrage de Corinne Pelluchon. Les Matrices, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment avec Matrioshka dans vos deux oreilles. On se retrouve très vite pour un nouvel opus. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et à regarder la version plus courte de cet entretien, autrement sur la vidéo sur notre chaîne YouTube Matrioshka et évidemment sur les réseaux sociaux. Faites-vous l'écho de tout ce qu'on produit, transmettez ce qu'on a envie de transmettre. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine Matrice ou une prochaine Matrioshka. Salut. Matrioshka.